Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers.
Donc nous sommes ici au théâtre de poche 2 et D et nous étions avec Diederik Peeters qui donnait son spectacle qui s'intitule « Des apparitions schizophoniques ». Et nous sommes avec Grégoire Blanc qui est apparu justement durant ce spectacle parce que tout simplement vous jouiez du térémine dans ce spectacle. Vous êtes joueur de térémine. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous présenter cet instrument que l'on connaît que sans tout le monde a vu, mais sans vraiment le connaître, en fait.
Oui, bien sûr. Alors, le térémine, c'est... faut voir ça comme un... Alors, c'est assez marrant de l'expliquer à la radio sans pouvoir le montrer. c'est un boîtier. On a deux antennes qui dépassent. Une à gauche qui est en forme de boucle et qui va permettre de contrôler le volume. Donc, plus j'éloigne ma main, plus le son va être fort. Et à la main droite, on contrôle la hauteur du son. Donc plus on approche la main de l'antenne, plus le son va être aigu. C'est un instrument qui a quand même marqué l'histoire de la musique, surtout parce que en fait, c'est le premier instrument électronique de l'histoire, avant les synthétiseurs. Alors, ce n'en est pas pour autant l'ancêtre, je dirais même que c'est un cousin, un grand-oncle, on pourrait dire, parce qu'il a vraiment cette particularité d'être expressif. Le musicien forge le son, vraiment, comme un violoniste, un flûtiste, on a vraiment cette empreinte, à l'inverse de beaucoup de synthétiseurs qui sont au final plutôt des machines, pour ainsi dire, sans aucune connotation péjorative, mais voilà, c'est-à-dire des éléments qu'on va programmer, et où la recherche de timbre, de son, devient plus importante que le fait de jouer. De l'instrument. Donc le térémine a vraiment ce côté-là. C'est très organique comme instrument. Certains trouvent que ça peut faire penser à une voix. Il y a une dimension un peu vocale, un peu chantée. Et voilà, donc dans le cadre de ce spectacle, oui, c'était un peu l'apparition de la fin. Donc j'étais derrière le rideau. Je pense que le public devait se demander s'il y avait un musicien, si c'était enregistré. Et puis,
Est-ce que vous pourriez nous parler justement de la manière dont fonctionne cet instrument ? Ce sont des ondes qu'il émet et vos mouvements de main vont déterminer des notes de son. Comment fonctionne cet instrument ?
Oui, alors c'est ça. C'est deux champs capacitifs. En fait, le corps joue le rôle d'une électrode. Donc en fait, chaque antenne est une électrode. Le corps est une autre électrode qui est reliée à la Terre. Et en variant la position, la forme et la position des mains par rapport aux antennes, on va changer des champs capacitifs. Donc c'est pas vraiment, on dit souvent c'est des ondes électromagnétiques, en fait c'est un peu plus simple que ça. Ce qui fait qu'on ne sent rien dans le corps quand on joue. Je veux dire, on n'a aucune sensation tactile. Certains s'imaginent des picotements ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est absolument pas le cas. Voilà, il y a ce côté très mystérieux aussi de jouer dans le vide. Donc, comme je disais tout à l'heure, main gauche volume, main droite hauteur. Oui, voilà, donc c'est unique, vraiment.
Et donc, justement, le fait de jouer dans le vide implique quelque chose de très subtil, dans la mesure où on pense à un piano, où il y a des touches déterminées. Là, pour le coup, c'est vraiment le geste qui est déterminant et la justesse du geste.
Complètement. Et c'est même le corps qui est l'instrument. Le térémine, c'est que, l'interprète, le boîtier qui va traduire les mouvements du corps. Donc on a cette grande transparence et paradoxalement, on a vraiment un contact physique avec le son, justement qui vient du fait qu'on n'a aucun contact physique. Enfin, j'ai un peu du mal à l'exprimer, mais si vous voulez, il y a vraiment cette relation-là. Et donc, c'est extrêmement sensible. Le simple fait de respirer peut avoir un impact. Et donc, il faut vraiment jouer avec l'oreille. C'est une permanente boucle de rétroaction, c'est-à-dire on cherche...
Entre la main et l'oreille, quoi.
Complètement, complètement. C'est-à-dire que l'oreille va... notre cerveau doit en permanence chercher à corriger s'il y a un écart dans la note. Donc c'est un entraînement pour être extrêmement réactif, en fait, au son qu'on entend. Mmh. Et ouais, voilà.
Vous parliez de l'invention de cet instrument-là aussi, qui est... Comment dire, voilà. Est-ce que vous pourriez nous en parler, justement?
Oui, alors, 1920, il faut imaginer, l'électricité, c'est vraiment les balbutiements. Hein, ça commence à peine à arriver... dans les foyers, c'est vraiment tout neuf. Et en Russie, donc, un jeune et brillant ingénieur, Léon Theremin, Lev Sergeyevich Theremin, travaille à cette époque-là dans un institut de recherche à Saint-Pétersbourg, Petrograd, sur un appareil qui lui permettrait de détecter, enfin de différencier les gaz selon leur densité avec un appareil électrique. Et bon, ça n'a pas marché exactement comme il voulait. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il perturbait énormément les mesures de son propre appareil par un effet capacitif. Donc en s'approchant, l'antenne du truc, hop, tournait à droite et voilà. Et il était musicien, c'était les débuts de la radio aussi. Et il s'est dit, bah tiens, je pourrais poursuivre ce bricolage hasardeux, mais intéressant pour essayer de contrôler du son avec des mouvements. Et l'instrument est né. Donc c'est complètement incroyable. Hein. C'est encore futuriste aujourd'hui, le Theremin, quand on le regarde. Bon. Et alors en 1920, j'ose même pas imaginer la réaction des gens en voyant ce truc.
Oui, il y a un côté assez magique. J'imagine que de jouer aussi, il y a, comment dire, presque une forme de... Avec un geste de main, on arrive à créer une musique. Ça fait penser aussi au chef d'orchestre. Finalement, ça se rapproche de ça aussi.
Oui, et je crois que l'image du chef d'orchestre, elle est pas mal, en fait. Et c'était même, je pense, une idée de Léon Theremin. La main gauche, c'est vraiment ça. C'est quand on lève la main, c'est l'idée d'ordonner à des musiciens de jouer plus fort. Bon, là, c'est l'instrument qui le fait. Donc oui, on a un peu ce côté-là. Et c'est une gestuelle qui inspire d'ailleurs, là je suis ravi de faire un peu dans mes activités de théréministe, enfin de musicien et joueur de thérémine. Pas mal de spectacles vivants, ça inspire des chorégraphes, la danse, il y a ce lien-là. Enfin un côté en tout cas un peu complet de ce truc étrange qui intrigue par le son, par le geste, par... Et par la grande expressivité qui en sort, oui, c'est vraiment un instrument à explorer et je suis ravi de l'amener tant que je peux à tous les publics.
Et justement, comment vous êtes arrivé à jouer de cet instrument ?
C'était quand j'étais au lycée, un cours de physique, et voilà, on a évoqué les débuts de la musique électronique et ça m'a énormément intrigué. Donc je me suis lancé. Il faut savoir que l'instrument est disponible. Dans tous les magasins de musique, il y en a toujours un qui traîne. Enfin, on peut en trouver, c'est fabriqué. Et voilà. Et bon, j'aurais jamais imaginé, évidemment, que ça devienne une passion quasi obsessionnelle, en fait. Et puis même, donc, mon métier, maintenant. Donc, j'ai fait des études très classiques d'ingénierie en mécanique industrielle, rien à voir. Et puis, le Theremin à côté, c'était vraiment un loisir. La musique a toujours eu beaucoup de place. J'avais fait du violoncelle quand même quand j'étais plus jeune. Et puis, voilà, ça s'est vraiment imposé parce qu'on n'est pas beaucoup d'interprètes et pas beaucoup aussi à venir de la musique classique, donc à avoir un bagage quelque part solide aussi. D'un point de vue... conventionnel de la musique, quoi, chercher des notes sans forcément le côté expérimental qui est super intéressant aussi et que j'aime bien développer, mais j'aime bien aussi l'idée d'utiliser le Theremin comme un instrument à part entière et avec les mêmes codes aussi que les instruments qu'on a l'habitude d'entendre. Donc oui, c'est devenu, c'est ça, mon métier aujourd'hui.
Alors c'est étonnant puisque vous dites justement qu'il y a peu de joueurs de Theremin, vous êtes combien dans le monde ?
Mais, alors, c'est toujours difficile de compter.
En professionnel ?
C'est ça. Alors, ça évolue quand même très, très régulièrement, mais je dirais qu'on est peut-être une dizaine de bons musiciens, en tout cas, à être capables d'approcher aussi un répertoire... c'est hyper prétentieux de dire un répertoire sérieux, mais enfin, vous me prenez ce que je veux dire, un répertoire où on va vraiment avoir une technique, en fait, de jeu précise. C'est ça, une dizaine à peu près. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a tous des registres très différents. Il y en a qui sont plus versés sur la musique de film, d'autres qui vont vraiment explorer le répertoire de concert, d'autres qui vont s'intéresser à la musique contemporaine, d'autres encore à la musique électronique. Donc chacun trouve un peu, explore l'instrument comme il l'entend, et c'est vraiment intéressant parce que l'instrument n'est pas figé. Il faut imaginer le violon qui est quand même sous le même format depuis le 16-17e siècle. Il n'a pas bougé, quatre cordes, la caisse de la même taille à peu près, les mêmes techniques de jeu. Là, le thérémine, tout est plus ou moins ouvert, en fait. Et c'est super, en fait, d'en donner l'accès à des gens d'horizons très, très variés et de voir ce qu'ils peuvent en sortir. Je serais ravi vraiment de voir ce qu'on peut encore imaginer avec cet instrument.
Alors justement, quand on vous écoutait, en tout cas pour ma part, ça m'a fait beaucoup penser au violon. Est-ce qu'il y aurait un lien à faire entre ces deux instruments dans le fait de jouer avec les ondes alors, le violon passe par des cordes. Est-ce qu'on peut y voir une famille d'instruments ?
Alors une famille, ce serait... c'est intéressant. Il y a un lien qui est effectivement très très proche avec les instruments à cordes. Et c'est drôle d'ailleurs de... Bon, Léon Thérémine, l'inventeur, était violoncelliste avant. Sa nièce, Lydia Kavina, qui a été peut-être la seule représentante de l'instrument dans les années 80, 90, 2000 et qui est encore en activité aujourd'hui, était violoniste. Enfin, il y a vraiment un lien avec les instruments à cordes. Tout simplement parce qu'on peut s'imaginer comme une corde invisible devant nous et qu'on viendrait pincer à différents endroits. Alors, il faut un peu d'imagination, mais la démarche est exactement la même. On glisse dans l'air comme on glisserait sur une corde. Et il y a la même exigence de justesse. Il y a le même travail du phrasé. Il y a le même travail du vibrato aussi, qui doit être vraiment maîtrisé si on veut exprimer quelque chose de musical, donc non, c'est une très très bonne remarque. Il y a vraiment une proximité. Ouais.
Vous parliez tout à l'heure aussi des extensions, c'est-à-dire on n'a pas, vous disiez qu'on n'a pas encore exploré toutes les potentialités en fait de cet instrument. Est-ce que vous pourriez nous parler de toutes les possibilités qu'offre cet instrument ?
Alors, ce qui est incroyable, en fait, c'est que l'instrument est très limité en soi. Comme on a vraiment juste, de manière très, très décorrélée et indépendante, le volume et la hauteur du son, on est limité. C'est-à-dire que le timbre est plus ou moins figé et il y a des limites techniques. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire un staccato, c'est vraiment la rapidité avec laquelle on peut plier la main qui va rentrer en compte. Mais ces limites offrent un champ incroyable parce que donc on a cette infinie sensibilité, on a la possibilité de jouer de manière microtonale, donc en clair, vous voyez un clavier de piano, on a 12 demi-tons sur une gamme, enfin sur une octave, donc il y a des paliers en fait entre les notes, là on n'en a aucun, donc on peut jouer entre les notes qu'on a dans notre système européen. Ce qui veut dire qu'on pourrait tout à fait aborder des répertoires, je pense à de la musique asiatique, arabe, des musiques plus folkloriques, et puis aussi, évidemment, voir vers l'avenir, imaginer des choses beaucoup plus contemporaines. Et ça reste un instrument électronique, ce qui veut dire qu'on peut le brancher à des synthétiseurs, même manipuler des échantillons informatiques. Enfin voilà, c'est une plateforme en fait qui est complètement ouverte et après libre à chacun en fait de s'appuyer dessus. Moi j'aime bien l'approche. J'ai un collègue musicien très très chouette, Mézer, qui s'appelle, et il détourne un peu l'utilisation des deux antennes pour contrôler des. Alors il fait de la techno tout seul. Il a un projet vraiment super avec un piano, des percussions au pied. Et puis des claviers, quoi, et un thérémine devant lui. Et avec les deux antennes du thérémine, il va modifier, en fait, par des mouvements, le son, donc un filtre et un volume de ses synthétiseurs. Donc c'est une utilisation super créative, en fait, de l'objet. Un peu détournée, évidemment, de l'idée d'en jouer comme un instrument de musique, mais c'est un très bon exemple de comment on peut explorer le thérémine avec de nouvelles idées. Voilà.
Quand on vous voyait sur scène, finalement, les gestes que vous faites devant l'instrument sont un début de danse. Vous avez un corps figé, parce qu'il faut être devant l'instrument, mais les mouvements de la main sont presque des mouvements qu'on pourrait retrouver dans un spectacle de danse. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un instrument qui inventerait de la musique ?
Oui, et d'ailleurs l'idée a été explorée par Léon Thérémine. Il avait inventé une plateforme, donc un espèce de petit rectangle au sol sur lequel une danseuse pouvait se mettre. Et en fonction de la hauteur de son corps, eh ben, on modifiait la hauteur du son. Donc ça existait, c'était une idée de l'inventeur aussi. Et c'est même une idée qui est en fait très à la mode aujourd'hui. Il y a plein de contrôleurs, enfin c'est même pas nouveau, hein, ça fait peut-être 10 ans qu'il y a plein de gens qui ont cette idée d'utiliser des gestes en fait intuitifs pour contrôler la musique. Donc il y avait eu plein de hacks de la Kinect de Microsoft, là, cette espèce de webcam connectée pour faire des jeux vidéo, en fait, un peu comme la Wii, voyez, ça date un peu déjà, mais l'idée d'utiliser ça en fait pour contrôler des objets musicaux. Et voilà, donc c'est vraiment un sujet de recherche active en musique électronique. Et voilà, le Thérémine, c'est très rudimentaire à cet effet. On a vraiment, oui, ces deux antennes, c'est simpliste, mais c'est magique aussi parce que ça forme un écosystème complet en soi. C'est un instrument abouti avec juste des concepts hyper simples. Et voilà, la beauté parfois réside aussi dans une grande forme de simplicité.
Là, vous jouiez dans ce spectacle de... Dans ce spectacle qui s'intitule Apparition schizophonique, dans quel autre spectacle on peut retrouver justement votre musique ?
Alors, en spectacle vivant, je travaille en ce moment avec Kader Atou, qui est un chorégraphe hip-hop, donc c'est super, super chouette ça. Le spectacle s'appelle Les Autres, avec un autre musicien qui joue d'autres instruments très atypiques. Et puis un projet de création autour de l'œuvre de Kandinsky avec une chorégraphe qui vient du Panama, Omaris Marinas. Et ça c'est pour la partie spectacle vivant. Et puis après je continue quand même à l'activité de concertiste aussi en musique classique et contemporaine. Un projet qui va venir en janvier à Berlin avec un quatuor de saxophone. Et puis la musique de film, là, je suis ravi de travailler sur mon premier long métrage en tant que compositeur avec un réalisateur en République dominicaine. Ça, c'est très chouette. Je ne sais pas quand ça sortira, mais le travail est en cours, donc je ne m'ennuie pas. Et puis oui, j'en profite comme c'est radio diffusé. Si vous voulez retrouver mon travail, il y a une petite chaîne YouTube avec donc vous tapez mon nom Grégoire Blanc et puis vous pouvez entendre parce que là voilà j'ai pas d'échantillon sonore à vous faire écouter mais vous pourrez entendre le son du Thérémine et le voir jouer. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup Grégoire Blanc pour cet entretien donc au Théâtre de Poche de aider autour de l'instrument que vous jouez et pour lequel vous êtes passionné aussi qui est le Thérémine.
Merci à vous.
Thank you. Thank you.